Didier Van Kovelaar, nous allons parler des plantes avec ce livre « Les émotions cachées des plantes » aux éditions Plon. Alors, on sait que les plantes vivent, nous entourent, qu'il faut leur donner beaucoup d'affection si on veut qu'elles nous en donnent aussi. Mais dans ce livre, vous témoignez que les plantes sont capables de connaître et de recevoir les mêmes émotions et surtout de transmettre les mêmes émotions que les humains, finalement.
C'est plutôt le contraire, puisque nous provenons des plantes. Les premières plantes, c'est 800 millions d'années. Les 150 millions d'années pour les plantes à fleurs. Mais les algues, c'est 3 milliards d'années. Le premier organisme vivant, la première intelligence en progrès qui évolue est végétale. Et nous provenons de ça. Donc, il ne s'agit pas de faire de l'anthropomorphisme avec les plantes, mais en regardant l'humain, de faire un peu de phytomorphisme. Et j'ai fait le...
Non, mais c'est marrant en plus, moi j'ai eu des retours là-dessus.
Ah, c'est vrai?
Ouais, les gens ont dit, bah, attends, mais comment c'est possible?
Point aujourd'hui où on en est dans la connaissance scientifique de tous ces phénomènes. On a la preuve aujourd'hui que les plantes perçoivent tout, qu'elles savent traiter l'information, agir en conséquence, donc réfléchir, et qu'elles agissent. Elles agissent physiquement, elles agissent en modifiant leur composition, en modifiant leur aspect. Par exemple, elles sont capables de fabriquer à l'intérieur de leur label, puissent-ils, l'image et l'odeur et la forme d'une guêpe femelle pour attirer le mâle qui croit qu'il va copuler avec sa femelle. En fait, il va se charger de pollen, aller ensuite sur une autre fleur et ainsi permettre la reproduction de la fleur. Donc la ruse est une des choses les plus faciles à mettre en évidence dans l'intelligence des plantes. Comment en est-elle arrivée à ce degré d'imitation aussi parfait au niveau des proportions que de l'odeur? On constate ça, on ne l'explique pas encore, mais la plante est capable de choses encore plus fortes. La plante n'a pas de cerveau, mais toutes ses parties se comportent comme un cerveau. Les fleurs, les feuilles, les racines. On a récemment prouvé qu'une racine, on croyait que lorsqu'elle butait contre une pierre dans le sol, ensuite elle contournait l'obstacle. Non, on sait qu'elle le contourne avant. L'extrémité de racine a une sorte de sonar qui lui permet de savoir quels sont les obstacles. Et on a fait une expérience extraordinaire. On a envoyé des fréquences. On voit comment elles réagissent aux fréquences sonores. Vous mettez une fréquence de 200 Hz, vous la faites entendre à la plante, elle va pousser dans cette direction. Pourquoi? Parce que 200 Hz, c'est la fréquence de l'eau qui ruisselle.
C'est extraordinaire. Alors, vous parliez de la ruse, mais alors, il y a des choses quand même extraordinaires, parce que quand on parle de peur, de colère, de gratitude, de séduction, la séduction, on peut peut-être comprendre, effectivement, pour, justement, dans le cadre de la reproduction, la jalousie, la compassion, là, c'est toutes les émotions, toutes les...
Alors, tout ça, ce sont des réactions qui ont été mesurées par les appareils. Que ce soit un électroencéphalogramme, que ce soit les oscilloscopes, tout ça, on mesure l'activité électrique, électromagnétique de la plante. On mesure aussi les composés volatiles qu'elle dégage et qu'on analyse. Donc on en sait beaucoup aujourd'hui, et il suffit de faire les expériences qu'on répète pour confirmer. Par exemple, la première expérience qui a mis en valeur cette perception qu'ont les plantes, c'est Cliff Baxter, l'inventeur du détecteur de mensonges, qui, dans les années 80, se met à travailler, à brancher les électrodes sur les plantes pour voir comment elles réagissent à différents stress. Par exemple, il trempe une feuille dans une tasse de café et il observe sur l'écran de l'électroencéphalogramme des pics de réaction. Mais il se dit, c'est pas suffisant. Comment je pourrais stresser la plante davantage? Et là, il imagine qu'il va prendre un briquet et qu'il va mettre le feu à la plante. Aussitôt, sur l'écran, on voit un pic de réaction infiniment plus important. La plante a capté l'intention. Qu'est-ce qu'elle a capté? Pas le vocabulaire, pas la télépathie, peut-être l'image mentale. En tout cas, cette expérience a été réalisée des milliers de fois. À chaque fois, elle est concluante, à condition qu'on soit sincère dans l'intention. Si vous dites juste, tiens, je vais mettre le feu à la plante comme ça sans y penser, sans avoir l'idée, sans avoir le dégagement de sincérité de cette action prévue, la plante ne réagira pas.
Alors, relation des plantes entre elles, mais relation des plantes à l'homme, à l'humain.
Alors, il y a notamment l'expérience de ce paysan mexicain, José Carmen, qui depuis 40 ans fait pousser les plus grands légumes du monde, sans engrais, sans aucun traitement, uniquement par des pensées d'amour et des compliments, comme quoi les plantes sont sensibles à la flatterie. Alors ça pourrait être voilà, une idée farfelue, pas du tout, il a été mesuré et contrôlé, son action a été contrôlée par le ministère de l'Agriculture du Mexique, par différentes universités dans le monde entier. Il se déplace, c'est pas juste dans son jardin qu'il a ces résultats-là. Partout où il va, il travaille sur des fruits et des légumes et il obtient une croissance et une santé de ces plantes extraordinaire, uniquement parce que son esprit s'est habitué à entrer en relation avec les vibrations de ces plantes, à envoyer des pensées d'amour, de gratitude, de reconnaissance, dont les effets sont mesurables. Toutes les autres tentatives d'explication de ce phénomène ont été rejetées. Évidemment, on les a toutes essayées avant de pouvoir confirmer l'extraordinaire.
Alors Didier Van Kovelaert, aujourd'hui où l'on parle d'écologie, où on parle de la cause animale, on parle rarement de la cause des plantes, même si effectivement la nature, mais on est un peu sourd quand même à cette nature et sourd aux plantes. Alors souffrance peut-être quelque part aussi.
On a intérêt à être sensible aux plantes parce que sans les plantes on ne peut pas vivre.
C'est l'oxygène.
Bien sûr, sans les arbres, sans les plantes, on ne pourrait plus respirer. Les plantes, elles, peuvent très bien se passer de l'homme. S'en sont passés pendant des centaines de millions d'années sans problème. L'inverse est impossible. Donc, si l'homme continue dans cette voie suicidaire de déforestation à l'extrême, de destruction de l'intégrité de la plante avec les OGM, par exemple, il s'est passé des choses incroyables avec les OGM. Il faut savoir que déjà les pesticides et ensuite les OGM sont partis de l'idée qu'il fallait défendre la plante, la protéger, mais surtout vendre des produits destinés à la faire croître et à la défendre. Or, avant tout ça, la plante se défend très bien. Prenons l'exemple du maïs. Le maïs, son plus grand ennemi, c'est la chenille pyrale. Donc il avait mis au point un système pour attirer, par une odeur sexuelle, une guêpe très friande de cette chenille pyrale. Ça marchait très bien jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale où le DDT, cet insecticide super puissant, est balancé partout. Et évidemment, ça ne marche plus. La guêpe ne sent plus cette odeur sexuelle, ces phéromones. Et puis surtout, elle est éloignée par les insecticides. Donc, la chenille qui, elle, survit, le pourcentage de chenilles qui survit au traitement, évidemment, la descendance est immunisée, il faut toujours monter les doses, et donc c'est suicidaire. La nature triomphe toujours. Et sur les OGM, même chose. Quand on a décidé de protéger, de faire un insecticide intérieur à la plante par rapport à la chenille, on a nettoyé le génome du maïs. Et on a enlevé ce qui, apparemment, ne servait à rien, notamment quelque chose qui s'appelle la cariophylline, qui sert à une seule chose, à défendre le maïs contre son autre grand ennemi, c'est le ver nématode qui mange ses racines. Et 180 milliards de pertes annuelles, ne serait-ce qu'aux États-Unis, à cause de cette erreur des généticiens. Et là, on s'est dit, bon, il faut absolument remettre la cariophylline. Mais il n'y en avait plus. On l'a heureusement trouvé dans l'origan. Donc on a dû refaire une manipulation génétique, mettre un gène d'origan dans le maïs, de manière à réparer ce que la plante telle qu'elle était à l'origine avant que l'homme ne la modifie.
Voilà, donc les émotions cachées des plantes, Didier Van Kovelaert, c'est aux éditions Plon. Ça semble à la fois fabuleux, compliqué, passionnant, mais de la manière dont vous l'écrivez et dont vous racontez et vous expliquez, c'est vraiment à la portée de tout à chacun. Et surtout, je pense que c'est aussi une prise de conscience du lecteur qui, j'espère, sera forte à la lecture de ce livre.
Oui, je pense que tout le monde a un rapport avec une plante ou un arbre. Tout le monde a...
Embrasser un arbre, il paraît que ça porte bonheur et que
C'est pas que ça porte bonheur, c'est que ça fait du bien. On sait sur le plan organique que respirer des composés volatiles, se brancher sur l'électromagnétisme d'un arbre, évidemment c'est profitable. Donc là on n'est pas du tout dans la superstition, on est aujourd'hui dans la science qui vous confirme tout ce que les peuples premiers savent depuis toujours.
Merci Didier Van Kovelaert. Les émotions cachées des plantes, je rappelle donc le titre, aux éditions Plomb. Je vais vous poser une dernière question. Je fais un sujet sur le livre qui a marqué une personne, un auteur, un artiste et autres, dans sa vie. Le livre, ouais, celui qu'on garde, qu'on relit, etc. Vous avez ça en stock ou...
J'en ai plusieurs.
Plusieurs, oui.
Que ce soit long, ça soit...
Non, pas long, non, c'est le dire lequel, argumenter, enfin expliquer un petit peu pourquoi.
Je pense que le livre qui m'a le plus marqué, que je relis le plus souvent, c'est un signe, c'est La Voue ivre de Marcel Aimé. C'est un livre extraordinaire qui est pour moi le symbole de ce qui est le plus dur à faire en littérature, c'est le réalisme fantastique. C'est-à-dire là, on est dans une campagne du Jura où les paysans, dans les années 1930, sont confrontés au surgissement d'une créature fantastique, qui est une voue ivre, une femme serpent, qui tout à coup, cette créature de légende, prend forme et va complètement modifier les rapports entre eux. Ils vont l'utiliser de manière très très pragmatique dans leur rivalité paysanne, dans les guerres entre les cléricaux et les anticléricaux. Et donc c'est un livre d'un réalisme absolu, parce que non seulement il nous fait croire dans la créature, dans l'existence de cette créature immortelle, de cette femme en plus qui séduit les hommes et qui leur fait beaucoup de bien, sauf s'ils essaient de voler son rubis. Alors à ce moment-là, il y a une des hordes de serpents qui viennent les dévorer. Donc on est dans le danger, on est dans la fascination, on est dans un humour extraordinaire de choc entre le réalisme et le fantastique. Et voilà, c'est un livre qui nous en apprend énormément sur la,